Intervenez au 01 45 24 7000, le standard est ouvert. On parle ce matin des bons produits dans les assiettes du réveillon et du succès des chocolatiers français, à l'étranger notamment. Vos questions donc ce matin au chocolatier Christian Constant, qui se définit comme un compositeur de chocolat. Vos questions également au chef cuisinier Arnaud Daguin, conseiller en stratégie alimentaire. D'abord, Patricia Martin, une première question.
Oui, une question pour tous les deux. En fait, aussi, en parfumerie par exemple, il y a des nez. Alors on sait qu'il y a en la matière une approche, une finesse, une subtilité, évidemment, des parfums. De la même manière, d'ailleurs, à propos de parfums, je suis à peu près à, grosso modo, quoi, 50 cm de votre boîte de chocolat,
Christian Constant.
Je le sens merveilleusement. Les papilles, vos papilles à vous, évidemment, elles sont averties, elles sont en alerte, elles sont éduquées, parce que vous en avez pris l'habitude, que depuis très 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 longtemps vous le faites. Est-ce que là aussi, il y a un savoir à acquérir, il y a des habitudes à prendre, et c'est peut-être vis-à-vis des plus jeunes aussi qu'il faut avoir cette réflexion. C'est... Quand on fait manger à des jeunes uniquement des pizzas et des je sais pas des pâtes ou des enfin sans beaucoup de subtilité, on leur apprend pas à aimer aussi ce qui est bon, y compris pour leur santé.
Non mais le goût c'est culturel, hein. Vous savez, bon, les enfants dès leur plus jeune âge ont des perceptions. Tout à l'heure on parlait de sucre, on peut commencer par là si vous voulez.
Il faut les développer
si vous
ces
mettez,
perceptions.
Si vous mettez un grain de sucre sur les lèvres d'un bébé, il va sourire immédiatement. Bon, c'est quand même significatif, hein. Bon, maintenant le goût, on a dit très longtemps qu'il n'y avait que quatre saveurs principales. Le sucré, le salé, l'acide, l'amer. Aujourd'hui, on a rajouté l'umamu. L'umamu, vous savez, c'est le sel chinois, le monoglutamate de sodium, qui est un exhausteur de goût qu'on va retrouver d'ailleurs dans la plupart des plats cuisinés industriels. Et en même temps, le sucre aussi, parce qu'on va mettre les deux. Ce sont deux exhausteurs de goût et de saveur. Mais en attendant, le goût, c'est quelque chose de culturel aussi, hein. C'est-à-dire qu'on accumule tout au long de son existence des souvenirs qui sont forcément agréables ou désagréables, qui quelquefois d'ailleurs sont liés à des circonstances de la vie. Mais indépendamment même, le goût n'est pas influençable par autre chose que ces choses-là. Ça, c'est, le goût, c'est naturel. En réalité...
Mais la palette des goûts est large.
Oui, mais
et
c'est
il
l'odorat.
Faudrait le rappeler.
Le goût, ça n'existe pas beaucoup. Hein. Ouais. Tout est dans l'odeur.
Oui.
Tout est en rétro-olfaction. C'est-à-dire que si vous goûtez un chocolat, immédiatement, bah, vous aurez une perception basique qui est celle de la bouche, c'est-à-dire une perception qui est purement physique.
Et c'est quand ça passe dans le nez que ça devient...
Voilà, et automatiquement, quand ça passe dans le nez, là, vous commencez à percevoir des choses. Des choses qui vous rappellent d'autres choses également. Donc c'est la culture, tout simplement.
Arnaud Daguin. Voilà.
Alors, on peut aussi... peut-être s'amuser à avoir une autre vision de tout ça, de le regarder un peu différemment. Et de fait, ce que dit Christian est parfaitement juste, hein, on fabrique sa bibliothèque de goût de façon aussi affective, pas seulement olfactive ou gustative, elle est aussi affective. Et c'est souvent, d'ailleurs, ce côté affectif et émotionnel qui imprime ou efface des souvenirs gustatifs qui nous fabriquent, en fait, qui fabriquent notre culture. Il y a aussi une autre façon de considérer le truc, c'est de dire qu'on se met en mode non analytique quand on va goûter quelque chose. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un peu la paix dans la tête.
Et oui, la virginité du goût. Voilà.
Un peu. Hein, oui. D'être, alors, c'est d'autant plus important pour des gens comme Christian et moi, par exemple, qui sommes dans ce... Alors, je vous rappelle, j'étais apprenti.
Oui, vous avez commencé votre apprentissage cuisinier.
Il y a à peu près...
chez Christian Constant.
Non,
c'est hier.
Mais... Quand on est tout le temps en train de goûter des trucs différents, si vous voulez, il y a un moment donné, il faut savoir mettre la tête en mode « je réfléchis pas » et être purement sensoriel. Pour que ce qui vous arrive dans la bouche...
Les sens d'abord.
Et sache vous dire aussi les impacts que ça va avoir sur tout votre organisme.
Mais encore une fois, tout ça s'apprend.
C'est plus de l'ordre d'une espèce de méditation tranquille où on dit, tiens, je pense à rien et je goûte.
Méditation, ça peut commencer par la cantine, par exemple.
Alors,
à mettre des
si on prend les choses dans cet ordre-là, méditer dans une cantine, je vous invite un de ces jours dans un de mes passages. Vous allez voir que méditer dans une cantine, c'est peut-être
difficile.
Pas gagné tout de suite. En revanche, ce qu'on propose aux gamins dans les cantines est en train de changer, pas assez vite à mon goût, mais j'y travaille aussi avec évidemment
c'est
plein
essentiel.
D'autres gens. Je pense que l'important, c'est de reconnecter nos gamins avec l'essence des produits qu'ils sont en train de manger. Arrêter de travestir, arrêter de... Vous savez, aujourd'hui, en cuisine collective, on passe la moitié du temps dans des pratiques qui enlèvent du goût et des nutriments aux produits, et on passe l'autre moitié du temps après à essayer d'en remettre de façon plus ou moins artificielle ou bétasse, avec les produits dont parlait tout à l'heure. Ça, il faut arrêter ça maintenant, il faut revenir à l'essence d'un produit. Une carotte, elle doit goûter la carotte.
Sentir la carotte, voilà. Et puis seulement après, on l'agrémente.
Et puis après, si on veut nous mettre une curie...
C'est le contraire de faire un Bria, hein, qui nous avait habitués au bouli, à la transformation totale et magique des produits.
Voilà. On va retourner au standard pour les questions des auditeurs. Alain est en ligne. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question ?
Je voulais vous faire part d'une réflexion et vous, bien sûr, vous poser une question. C'est celle-ci, c'est que je suis amateur de chocolat et je m'aperçois qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de chocolatiers qui torréfient leurs fèves et achètent le cacao chez des industriels, Valrhona ou Barry. Et cette industrie a pris le pouvoir, puisque nous trouvons dans le cacao aujourd'hui de la lécithine de soja. Alors, lorsque j'achète du chocolat chez un grand chocolatier, je suis quand même étonné de manger du soja. En plus, on vend du soja au prix du chocolat qui est relativement cher, et ensuite ce soja est-il bio, est-il génétiquement modifié? Qu'est-ce que le soja vient faire là-dedans?
Eh bien, alors on va entendre justement le chocolatier qui est autour de cette table, Christian Constant. Les industriels ont pris le pouvoir dans le chocolat?
Alors, il y a au moins trois réponses à toutes ces interrogations. D'abord, la première, moi je vais vous demander, monsieur, est-ce que vous faites vous-même votre vin? Est-ce que vous achetez votre raisin? Est-ce que dans votre baignoire, vous le faites fermenter? Et est-ce que vous faites votre vin? Bon, moi, ça c'est ma première question. Bon, la deuxième question, simplement, c'est que le chocolat, c'est un produit dont la chaîne de fabrication est longue. Hein, ça part d'un produit agricole, d'abord. Ce produit agricole, comparativement d'ailleurs au vin, est fermenté, ensuite est séché, ensuite est torréfié, est broyé, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il y a toute une série de paramètres qui sont des paramètres qui n'appartiennent malheureusement pas à l'amateur. En revanche, il y a la maison que vous avez citée, je peux reciter à nouveau parce que, à mon avis, c'est une des meilleures, qui est Valrhona. Et Valrhona a à la disposition des artisans dont nous sommes des moyens techniques que nous n'avons pas nous-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des moyens d'analyse également et qui permettent donc de modifier, de corriger certains paramètres qu'aurait donc la fève elle-même. Bon, voilà, moi je pense qu'il faut être un petit peu raisonnable et évidemment il ne faut pas acheter n'importe quoi parce qu'on peut très bien acheter des produits déjà existants, c'est-à-dire qu'on appelle de la couverture dans notre métier, qui sera d'une très médiocre qualité parce qu'elle sera fabriquée par des industriels qui n'ont d'autre souci que de les vendre pas cher, en tout cas, et donc qui vont fabriquer n'importe quoi. Bon, je pense que la collaboration qu'on peut avoir avec des maisons comme ça est une collaboration importante.
Mais quand j'étais moi-même sourceur. Quand Alain dit que les chocolatiers ne torréfient plus leurs fèves, ça c'est...
Bah, si vous voulez, est-ce que chez Nicolas, par exemple, le marchand de vin...
Nicolas est un distributeur.
Oui, est-ce qu'il va fabriquer son vin? Bon, que vous connaissez beaucoup de gens. Mon grand-père faisait du vin. Moi, tout petit, j'ai vu les vendanges, j'ai vu fouler le raisin au pied. Hein, j'ai vu mon grand-père faire du vin, et je peux vous dire que ce vin, on avait intérêt à le boire avant Pâques. Parce que après Pâques, il commençait à piquer. Alors on dit, tu mets de l'eau dans ton vin, hein, parce que c'est mieux, hein, bien sûr, parce que évidemment, mon grand-père, il maîtrisait pas toute la chaîne. Il n'avait pas de réfractomètre pour mesurer le taux de sucre, il n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour déterminer si les vendanges sont à maturité et si on peut y aller. Allez. Maintenant, on a évoqué la deuxième chose qui était aussi la lécithine de soja. La lécithine, qu'est-ce que c'est que la lécithine?
On lui reproche beaucoup de choses, visiblement.
Mais oui, mais la lécithine, vous l'avez dans vos propres organes. Dans les cellules humaines, vous avez de la lécithine. Dans le jaune d'œuf, vous avez de la lécithine. Comment la mayonnaise pourrait-elle monter s'il n'y avait pas de lécithine dans le jaune?
C'est une question curseur, peut-être.
La lécithine, vous l'avez dans tous les légumes secs également. Dans le haricot, dans les lentilles, dans tous les légumes secs, vous avez de la lécithine. Qu'est-ce que c'est que la lécithine? C'est une matière qui a une très grande vertu, c'est de concilier le gras et le maigre. Voilà, c'est tout.
Et pourquoi est-elle mal perçue par les consommateurs?
Alors pourquoi du soja? Parce qu'il est plus facile de l'extraire du soja et des sojas non OGM, bien évidemment. Mais vous pouvez très bien récupérer de la lécithine dans n'importe quoi.
Un commentaire du chef cuisinier Arnaud Daguin.
Oui, mais ces questions-là qu'on se pose tout le temps, vous voyez, elles sont très représentatives de l'état dans lequel, de l'état d'inquiétude dans lequel nous sommes tous par rapport à l'alimentaire. On se pose des questions incroyables et on a raison de se les poser. Et pour revenir à l'industrie, une fois de plus, parce que c'est quand même un sujet qui me gratte depuis quelques temps. Quand on a besoin de chaînes longues, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de circuits longs, même si on aimerait que tout le monde soit un circuit court, que tout le monde fasse... Mais non, c'est...
80% des gens vivent en ville. Les fèves, il faut bien aller les chercher dans d'autres pays.
Et puis 80% des gens vivent dans des villes dans le monde. Aujourd'hui, on a besoin de les nourrir. On ne peut pas les nourrir tous en circuit court, même si c'est... voilà. L'industrie, elle devrait être au service des produits. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous faisons des produits qui sont au service de l'industrie. Vous comprenez ? C'est qu'on a retourné ça pour faire marcher la machine et pas pour notre bénéfice. Et en fait, culturellement, on a tous besoin de dire et de demander et de revendiquer même que tous nos progrès industriels, tous nos progrès scientifiques soient à notre service et non pas au service de la machine à faire du profit. Vous voyez, la vraie révolution alimentaire, elle est là. Et pour l'agriculture, c'est exactement la même chose. Le cacao, c'est très intéressant. Ce sont des cultures qui sont des cultures agroforestières au départ. Ce sont des arbustes qui poussent sous d'autres arbres, normalement, comme le café. Ou... Alors évidemment, quand on le considère en tant que tel, si on en fait une industrie, c'est-à-dire si on commence à faire une agriculture pour produire de la
cacao... Ça commence, excuse-moi, hein, malheureusement. Hein.
Oui, je sais bien.
Oui, au Grand Équateur, notamment, où on commence à... les instituts de recherche ont déterminé maintenant un nouveau plan qu'on appelle le CCN51 et ouais, qui a la particularité de produire 4 fois plus.
Voilà, on est en train de faire les mêmes conneries avec le cacao qu'on a fait avec les tomates. Avec, voilà, on part du top-down alors qu'en fait, il faudrait partir de sol vivant.
Arnaud Daguin et Christian Constant, vous avez forcément été attentifs à ces états généraux de l'alimentation il y a quelques jours en France. Ils devaient dessiner les nouvelles méthodes d'alimentation de demain. Concernant le bio, le contrôle sanitaire, la qualité nutritionnelle, les consommateurs sont un peu restés sur leur faim, ils l'ont fait savoir. C'est aussi ce que vous avez ressenti de ces états généraux de l'alimentation.
Oui, en fait, le seul point qui m'a paru intéressant, qui est sorti de là, alors je sais que c'est pas très sympa de dire ça pour tous les gens qui ont bossé vraiment, il y en a qui ont bossé dur là-dessus, c'est d'avoir évoqué la possibilité que celui qui vend le remède à l'agriculteur soit pas le même que celui qui fait l'ordonnance. Vous voyez ce que je veux dire à peu près ?
Donc ça... Il y a un peu des conflits d'intérêts dans tous les sens.
Voilà, c'est l'essence même de nos coopératives aujourd'hui, c'est ça. Vous savez que la plupart d'entre elles font leur marge sur les services et les produits qu'elles vendent à leurs coopérants et pas sur les produits. Et donc ça, ça m'a paru être le point quand même un peu intéressant. Pour tout le reste, on n'est pas assez sur le sol, encore une fois, hein, je répète, mais voilà.
Allez, on va retourner au standard avec une question de Tard. Vous êtes en ligne, Tard. Bonjour à vous.
Bonjour à vous, bonjour toute l'équipe. Alors, donc tout à l'heure, vous avez dit qu'on rajoutait des graisses végétales dans le chocolat. Alors, graisse végétale, moi, j'y connais rien. Je suis peut-être pas le seul. Vous pouvez en dire un peu plus de détails, parce que quand on voit dans les grandes distributions ou ailleurs, le chocolat bio, etc., Max Havelaar, ce que vous voulez, Fairtrade, tout ça, mais est-ce qu'eux aussi, ils en mettent, quel est le...
On va retourner avec Christian Constant, le chocolatier.
Bon, la réponse est simple. Le chocolat, basiquement, c'est grosso modo 50% de matière grasse, 50% de matière sèche. Bon, la matière grasse est une matière grasse de très bonne qualité d'ailleurs, puisque c'est du bon cholestérol. Voilà, il faut bien vous dire ça. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Seulement, ce qui se passe simplement, c'est que les Anglais, et c'est parti notamment en Angleterre, quand on a créé cette directive en question, ça a consisté, si vous voulez, à rajouter donc dans le produit une matière grasse différente, en tout cas simplement pour augmenter la sauce, si vous voulez. C'est que si vous prenez du beurre, vous achetez du beurre, vous n'achetez pas du beurre avec de la margarine mélangée. Parce que si vous rajoutez de la margarine, c'est pourquoi ? C'est pour faire baisser le prix, tout simplement. Alors, la commission s'est déculpabilisée en quelque sorte en disant « Oui, mais on va mettre des matières grasses végétales tropicales. » Bon, ce qui fait qu'on touchera beaucoup moins aux petits producteurs et on leur fera moins de mal. Bon, c'est évidemment une imbécilité totale parce qu'en fait, on leur a fait énormément de mal là-dessus. Hein. Bon, et ces matières grasses végétales en question, elles n'avaient pas d'autre but à l'origine que d'augmenter le point de fusion. Et les Anglais disaient « Oui, mais vous comprenez, notre chocolat, on ne peut pas le consommer dans les pays chauds parce qu'il va fondre tout de suite, il fond à 32 degrés. Donc automatiquement, on ne peut pas le consommer. Alors en mettant ces matières grasses qui, elles, ne fondent qu'à 60 degrés, par exemple, on va permettre à ces pays d'en consommer. Une imbécilité. Hein. Est-ce que par exemple, je dis dans le beurre, on va mettre de la margarine ? Est-ce que dans le vin, on va mettre du jus de carotte ? Ainsi de suite. C'est aberrant, complètement aberrant.
Eh bien, merci d'être venu le dire ici ce matin sur France Inter, le chocolatier Christian Constant et le chef. Vous avez eu des étoiles, je ne sais pas si vous en avez encore.
Quelques-unes.
Une et deux au moins. Arnaud Daguin, chef cuisinier, merci d'être venu ce matin sur France Inter et avec bon plaisir. Réveillon à tout le monde.
Merci, tout plaisir était pour nous.